d'être accepté sans réserve. Je répète, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve d'exemple à ceux qui croiraient. Cette parole est certaine parce que Paul, ici, il défend l'évangile qu'il a prêché. Il défend quelque chose de précieux à ses yeux. Il défend, vous savez, le trésor qui a été trouvé dans un champ. Et pour lui, c'est tellement précieux. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup quelqu'un, mais en tout cas, moi, ma femme, mes enfants, il ne faut pas qu'on y touche, quoi. C'est quelque chose que je veux protéger. Ça fait partie de moi. Et lorsque vous lisez les épîtres de Paul, les lettres de Paul, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que à chaque fois, Paul s'inquiétait d'une chose. C'est que ce qu'il avait prêché, lui, soit détourné, soit biaisé, soit diminué. Et ce dont nous avons besoin, nous, c'est de regarder les yeux et d'examiner ce qu'est l'Évangile. Vous vous souvenez ce que Jean-Luc a dit la semaine dernière ? Il a dit une chose qui était importante. Il a dit « La Bible est simple, l'Évangile est simple, la bonne nouvelle est simple. » Et souvent, l'homme a cherché à compliquer ce message, cette bonne nouvelle. Vous avez vu ce qu'il dit en trois mots ? Cette parole est certaine et digne d'être acceptée. Jésus, Christ, est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. C'est si simple. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on doit amener, forcément. Hein. Mais l'homme, depuis que le monde est monde, depuis qu'il a fait cette rencontre d'un Dieu créateur tout-puissant, n'a cessé de compliquer les choses. Et vous et moi, nous sommes compliqués. Parce qu'on veut toujours mettre notre vision de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas un pomerol, du vin. Je savais que ça allait vous plaire. Grâce à moi, vous gagnez en connaissances œnologiques. L'Évangile, ce n'est pas du vin. L'Évangile, ce n'est pas l'évangile de Marie. L'évangile, ce n'est pas l'évangile selon Tinder, même si ça peut être sympa de rencontrer une âme sœur. L'évangile, c'est tout autre. L'évangile est ça. L'évangile, c'est que moi, Bruno, je suis pécheur, je suis séparé de Dieu, de sa sainte présence. Et ce dont j'ai besoin, moi, Bruno, c'est de quelqu'un qui va venir effacer ce que j'ai fait, ce que j'étais. En prenant conscience de cela, je me tourne vers ce Dieu-là, vers ce Sauveur, ce Dieu Sauveur que nous venons de chanter, et je peux être sauvé. Et alors, je passe du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Pourquoi je vous dis cela ? C'est parce que souvent, nous allons ajouter des choses. Je le disais tout à l'heure à Jean-Raymond. Il faut faire attention parce que parfois, on ajoute, on retranche des choses. L'Évangile, ce n'est pas si tu fais ça, si tu fais pénitence, si tu accomplis la loi dans les moindres détails, si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas être sauvé. C'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi en celui qui est mort pour mes péchés, qui a payé le prix de ma vie par son sang. Je suis racheté et j'étais racheté du royaume des ténèbres pour être transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. C'est ça l'Évangile. Et l'Évangile, ça n'est pas ça. Paul défend son véritable évangile. Pourquoi je dis son ? C'est parce qu'il a reçu ça par révélation. Comment un homme qui était bercé, qui était trempé dans la loi, dans le pharisianisme, comment un homme a-t-il pu comprendre ce qu'était la grâce de Dieu ? Lui qui pensait que le salut venait par l'accomplissement de la loi. Comment un homme peut-il changer de tel point de vision ? C'est parce qu'il a eu la révélation de cet évangile. Et Paul va défendre ça. Il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tiens, il parle d'un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, parce que il y a un seul évangile, celui que Paul prêche. Il y a d'autres évangiles qu'on vient vous amener. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, écoutez bien ceci, renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, moi, l'apôtre Paul, qui ai reçu cette révélation, je viendrai vers vous, ou quand un ange viendrait vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et il ajoute, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il insiste, il est clair, pas de compromis. J'avais pris l'exemple une fois, vous vous souvenez, de la bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là. Ça, cette bouteille d'eau, je peux la boire, c'est de l'eau de source, d'accord ? Allez y mettre une goutte de l'eau de mon égout, devant chez moi. Est-ce que cette eau, vous allez la boire ? Vous l'avez biaisée parce que vous amenez de l'impureté dedans. Et Paul, il est en train de dire cela. Il dit, n'importe qui viendrait ajouter quelque chose à ce qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Moi, je ne vais pas le jeter, il n'y a pas de bouchon. Jetez la bouteille. Ne gardez pas cet évangile. Alors, il le fait dans Galates, il le rappelle à Timothée et il le fait dans Colossiens. Paul, il a combattu ça avec ferveur. Avec ferveur, avec foi, avec détermination. Ça a été pour lui. D'ailleurs, j'imagine Paul, à l'époque d'aujourd'hui, aller sur les réseaux sociaux et voir et entendre des enseignements. Mais je suis sûr qu'il bondit de sa chaise et qu'il détruit la boxe Internet. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Parce qu'il sait que si nous biaisons l'évangile, nous empêchons les personnes de recevoir la véritable vie. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous savez, c'est très séduisant, les fausses doctrines. Vous savez pourquoi ? Non ? Ben, je vais vous le dire. C'est parce que les fausses doctrines, elles élèvent l'homme. Elles t'élèvent. Elles te donnent un droit sûr. Elles te donnent la capacité d'eux. Elles te donnent le pouvoir. Elles te donnent comme un certain contrôle sur ton propre salut. Et Paul dit, regardez dans ce que je vous ai lu. Il dit, par la grâce qui m'a été faite, Dieu a fait de moi cet apôtre de l'évangile qui vous a été prêché. Il dit, et je le répète, cette parole est certaine et digne d'être acceptée, Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, pas tous les pécheurs. Vendredi matin, nous sommes allés à un enterrement avec mon épouse et le sermon du curé, il était très très bien. J'ai aimé. C'était profondément évangélique. Mais il a fait une erreur dans son prêche. Il était comme Michel Polnareff. Il a dit « On ira tous au paradis ». Il a fait une erreur. C'est comme la bouteille d'eau qui au départ était pure et j'avais envie de boire, je peux vous le dire, la manière dont il prêchait, je buvais ses paroles. Et puis il est venu mettre, on ira tous au paradis. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que c'est dommage, Seigneur. Et qu'est-ce que c'est dommage, et je ne jette pas le jugement à l'anathème sur ce curé ou ce prêtre. Je dis simplement, Seigneur, garde-moi de garder la pureté de l'Évangile, de garder ce que toi, tu veux, ce que toi, tu as proclamé, pas ce que les hommes proclament. Alors, il y a des discours séduisants, et le premier discours qu'on peut regarder... Alors, ce que je vous invite à faire, hein, parce qu'on ne peut pas lire l'Épître aux Colossiens, les trois premiers chapitres d'emblée, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller le voir cette semaine. Premier, les discours philosophiques. Et on va voir qu'on peut être un peu philosophique, nous, les évangéliques. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La philosophie, en grec, ça signifie littéralement « amour du savoir ». Et communément, c'est l'amour de la sagesse. Et c'est une démarche qui vise à une compréhension du monde, de la vie, par une réflexion rationnelle des choses et une critique des choses. Je peux vous dire, j'ai toujours été mauvais en philosophie. Et si je pouvais l'enlever du programme et de l'éducation nationale, je le ferais volontiers, d'autant que j'ai eu deux fils qui ont passé leur bac et il a fallu travailler avec eux sur des sujets. La philosophie donne une explication, une compréhension humaine de Dieu. C'est-à-dire que je comprends Dieu par ma réflexion et par ce que je comprends de ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? C'est-à-dire que ma vision de Dieu dépendra de mon sens critique. Or, elle n'est pas basée sur la révélation divine. L'apôtre Paul, lorsqu'il prêche l'évangile, il prêche l'évangile révélé. Il ne prêche pas un évangile compris. Il ne prêche pas un évangile construit de main d'homme. C'est Dieu qui donne à l'homme. C'est pas l'homme qui comprend de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Et le problème, c'est que dans notre vision des choses, on en voit, par exemple, des gens se former dans les instituts bibliques pour comprendre Dieu. D'ailleurs, peut-on le comprendre ? Ces voix sont tellement grandes. C'est tellement un grand Dieu que j'ai. Comment pourrais-je, moi, par mon petit cerveau, dire bah, « Dieu est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Souvent, les personnes viennent me voir quand elles me demandent, et je me rends compte en vieillissant, c'est pas que je veux plus donner de conseils, mais je me dis, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé ? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Parce que moi, je peux donner tous les conseils sages de ce monde qui resteront des conseils humains. Et je dis, mais c'est la révélation dont nous avons besoin. Et vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, nous cherchons à faire comprendre Dieu plutôt que de révéler Dieu. Je me répète, parce que c'est vraiment important, aujourd'hui, il y a des systèmes qui nous amènent à chercher à comprendre Dieu plutôt que de le révéler. Et le souci de mon cœur aujourd'hui, ce n'est pas forcément... Les gens, on m'a souvent dit, mais Bruno, on a besoin d'enseignement. Mais oui, on a besoin de comprendre, on a besoin de notre intelligence, parce que l'apôtre Paul le dit lui-même, soyez renouvelés dans votre intelligence. Mais nous sommes renouvelés par l'intelligence, par l'esprit, parce que Jésus a dit, je vous enverrai l'esprit, il vous enseignera, je vous enverrai l'esprit, il vous rappellera tout ce que j'ai enseigné, je vous enverrai l'esprit, l'esprit révèle. Toi, tu ne peux rien révéler, tu ne peux rien donner. Tout a été fait par grâce, dit l'apôtre Paul. Et les discours philosophiques parlent de Dieu. Ils parlent sur Dieu. J'entends, j'écoute des fois des messages. Je veux bien. Et je ne critique pas ce que, vous entendez bien ce que je dis. Mais parfois on me dit, mais Dieu est comme ça. Et Dieu veut ça. Et Dieu parle. Et Dieu est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et parfois on veut tout expliquer de Dieu, mais sans le connaître. Et dans le désir de mon cœur, moi, je veux bien expliquer des choses, mais mon but, c'est d'amener les gens face à Jésus, face à Dieu par Jésus-Christ. Je voudrais qu'on soit tous sur le chemin de Damas. Je voudrais qu'on aille tous vers ce chemin-là, parce que c'est ce chemin-là dont nous avons besoin. Donc, et je me lâche, plutôt que de passer du temps à écouter des messages sur YouTube, passe du temps avec Dieu. Et croyez que, ne dites pas que je jette l'anathème et que je ne veux pas de YouTube ou des enseignements, que tout est pourri, c'est pas vrai, je ne dis pas ça. Mais quand je vois aujourd'hui des chrétiens qui passent leur temps, et encore, quand ils écoutent des messages, tant mieux. Mais pour d'autres, c'est les jeux vidéo. Pour d'autres, c'est faire du sport. Pour d'autres, alors que ce que nous avons besoin, c'est d'un relationnel. Ils connaissent par la construction d'idées, par l'intelligence, sans connaître la relation d'amour avec le Créateur. Et dites-vous bien que je ne veux pas vous dire que nous n'avons pas besoin d'étudier la Bible, hein. Je ne dis pas ça. Mais la première chose dont nous avons besoin, c'est la relation avec lui. Et nous avons besoin de prendre du temps pour l'écouter. Quel danger ? Eh bien, on va se retrouver avec des conversions intellectuelles. Il y a des gens qui adhèrent à l'idée. Ils comprennent un jour, bah tiens, moi je veux bien que Dieu sauve des péchés. Bon, ils ont une notion du péché. Ils ont une notion, peut-être une compréhension de ce qu'ils ont besoin, peut-être. Et encore, ça c'est bien. Mais parfois, maintenant, on prêche un évangile, vous savez, mais viens au Seigneur et tu verras, tout ira mieux. Mais l'évangile ne dit jamais ça. Viens à Dieu et tu verras, tu seras béni. Viens à Dieu et tu verras. Tu vas pouvoir grandir, être un homme ou une femme. Non, l'Évangile dit, tu dois mourir à ce que tu étais pour permettre à Christ de grandir en toi. Il y a des chrétiens aussi parfois qui sont incapables de grandir du coup. Moi, je veux bien faire les choses par compréhension des choses. Je prends un exemple tout simple. J'ai une épouse qui aime les choses rangées à leur place. Je peux le dire, elle n'est pas là comme ça. N'allez pas lui dire après. Hein. Maryse, elle aime bien les choses rangées à sa place, vous savez. Et je suis, par exemple, allez, ça reste entre nous. Hein. Pendant des années, par exemple, j'ai enlevé mes chemises. Non, j'enlevais pas les boutons. Et, salut Maryse, tu t'en occupes. Donc quand Maryse repassait, forcément, il fallait qu'elle enlève les boutons, etc. Je sens que c'est du vécu pour plusieurs femmes ici. Mesdames, dressez vos maris. Serrez-les un peu plus. Et à un moment donné, je vous le dis, c'est vrai, hein, il y a quelques mois, je prie et je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme plus heureuse ? Vous êtes... Enlève tes boutons. Ouais. Mais depuis, elle est heureuse. Elle est épanouie, c'est une femme épanouie maintenant. Mais est-ce que vous comprenez que quand je comprends, mais je le savais qu'il fallait enlever les boutons, mais l'attitude de cœur n'y était pas. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment je peux aimer ma femme plus? Mais comment je peux aimer Dieu plus? Fais ce qu'il te demande, par amour, pas par... Purée, ça sonne creux. Et puis, vous allez avoir des personnes qui vont remettre en cause les Écritures. Pourquoi? Parce que ça va contre leur construction intellectuelle. Et ça, je peux vous le dire, c'est de plus en plus répandu. De plus en plus répandu, et aussi dans le monde évangélique. Le deuxième discours séduisant, c'est les principes et activités religieux, la religion. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, et une autre version dit, la réalité est en Christ. La religion, c'est un système de pratiques, de croyances, en usage dans un groupe ou dans une communauté. Je ne dis pas que d'avoir une liturgie, c'est mauvais. Nous, on a des pratiques ici. On a notre petit temps de louange, on a le temps de message, on a la Sainte Cène. Je ne dis pas que c'est mauvais. Attention! Je dis simplement, vous allez voir, que parfois, on peut mettre notre liturgie ou nos croyances ou par des actes devant l'Évangile. Je m'explique. Il y a des personnes qui m'ont dit ce jeudi avoir vécu cela par rapport, vous savez, à la loi, à la Torah. Ils m'ont dit jeudi, à un moment donné, on s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'en agissant selon la Torah, on obtenait une certaine forme de justification. L'accomplissement de la loi nous conduit à Christ. La loi nous conduit à Christ. La loi nous montre que je suis mauvais, que je suis pécheur, que je suis... que j'ai besoin de plus, de quelque chose de plus grand que l'accomplissement d'actes bien précis. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, « Maudit soit celui qui n'accomplit pas toute la loi. » Si tu cherches à accomplir la loi pour satisfaire quelque chose de... C'est-à-dire que si tu fais les fêtes de l'Éternel en croyant que tu vas être plus aimé de Dieu, tu te leurres, tu te trompes. Si tu fais le sabbat en croyant que Dieu va t'aimer plus, c'est faux. D'ailleurs, le sabbat a été fait pour l'homme, il n'a pas été fait pour Dieu. Si tu crois qu'à travers des actes concrets, de ne pas manger quelque chose, de ne manger quelque chose, tu vas gagner en sainteté, en pureté, c'est faux. Parce que tout est en Christ. Tout est par Christ et pour lui. Et Jésus t'a racheté de ces choses. Et ta justice vient de Christ. Et ta pureté vient de Christ. Ta vie vient de Christ. Pas par toi, pas par tes œuvres. Et aujourd'hui, il y a des choses qui s'immiscient comme ça dans l'Église. Et je vous le dis ça, je vous parle par révélation. Dieu m'a parlé, il m'a montré. Et il m'a dit, Bruno, il faut que tu fasses attention à toi. Et il faut que tu fasses attention à l'enseignement dans cette communauté. Qu'on ne juge pas les gens sur leur manger, leur boire, mais qu'on les juge uniquement sur leur capacité de suivre Christ et d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors les dangers. Ben, on va avoir des croyants qui pensent plaire ou être sauvés par leur pratique. Et la pratique va prendre de plus en plus la grâce. Protéger cette grâce, si je puis dire. Tout a été fait par grâce. Tout est donné par grâce. Certes, ça n'exclut pas l'enseignement sur l'obéissance, hein, que les choses soient claires. Mais c'est pas par tes œuvres que tu es sauvé. C'est pas parce que tu fais, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et le mysticisme, tiens, voilà, on va porter un autre sujet. Trois points. Donc, la première des choses, c'est... Aidez-moi, hein, j'ai plus de mémoire, là. La philosophie, La compréhension, enfin, l'intellectualisme, on va appeler ça. Le deuxième, les principes religieux, les actes religieux. Le troisième, et que les choses soient claires, que je suis équilibré dans mon message. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas étudier la Bible. D'accord, hein ? Le deuxième, ça ne veut pas dire que la pratique religieuse et certaines choses ne sont pas mauvaises en soi. Et la troisième, c'est le mysticisme. Qu'aucun homme, tiens, il n'y a que les mecs là, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré de la course. Tandis, et regardez, de la course. Est-ce que vous avez déjà couru, vous avez déjà vu la 7e compagnie ? À un moment donné, dans le premier volet de la 7e compagnie, il y a l'Allemand là qui est en train avec sa moto, et puis ils ont tendu un fil, et puis il part. Bah, c'est exactement ce que fait. Ne vous ravisse à son gré de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef. Croyance, le mysticisme, selon laquelle l'homme peut, par diverses techniques, entrer en communion directe avec Dieu. Et ça, c'est une dérive qu'on a rencontrée régulièrement depuis la naissance de l'Église. Par exemple, les montanistes, c'était des gens qui prenaient du temps comme ça, ils louaient, adoraient, et puis ils commençaient à recevoir des choses de Dieu. C'était vraiment un mouvement prophétique. Il leur manquait une chose, parce qu'ils fonctionnaient seuls, c'est la parole de Dieu en face d'eux. Moralité, tout ce qui se passait, c'est que ils finissaient par recevoir des choses qui étaient contraires à la Bible. Et ils ont fini par dire que ce qu'ils recevaient eux faisait autorité sur la Bible. Quel danger! Ben, le prophétique, quels sont ceux qui veulent fonctionner dans le prophétique ici? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Faites un petit signe. Là. Voilà. On a quelques-uns là qui aiment la prophétie. J'aime la prophétie. Mais le prophétique fonctionnant seul peut devenir du mysticisme. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dépeint en Éphésiens 4 l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Vous comprenez pourquoi les ministères doivent travailler ensemble et sous la responsabilité des anciens d'une église. Vous comprenez pourquoi la structure de l'église a été faite comme cela. Et qu'il est dans, et vous comprenez pourquoi on doit besoin de se réunir dans un cercle plus grand. Parce que se réunir dans un cercle plus grand, par rapport à des petits groupes, ça nous permet justement de veiller les uns sur les autres et de fonctionner les uns avec les autres. Et une révélation qui s'oppose ou contredit la Bible, ça, on l'a vu depuis que le monde est monde. Hein. Est-ce que vous savez, alors c'est pas les témoins de Jéhovah, c'est l'autre, c'est les Mormons. Vous savez qu'il a eu une révélation de l'ange Gabriel. Hein. Il est venu ajouter des choses. Il a même dit, tiens, il n'y a pas que la Bible, il y a mon livre aussi. Une fois, les Mormons m'en ont donné un. Hein. J'ai commencé à lire. J'ai mis de côté, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. J'ai besoin de prendre plus de temps avec la parole de Dieu. Alors, leur point commun à ces discours séduisants, c'est quoi? Des hommes et des femmes qui s'appuient sur la tradition des hommes et des femmes qui s'appuient sur des pratiques religieuses humaines, des hommes et des femmes qui s'appuient sur leur propre pensée. Ils ne s'appuient pas sur Christ. Remarquez, à chaque fois, il se détache de Christ, du chef. Dans tous les passages, allez les relire, vous verrez. C'est très intéressant. C'est comme si on enlevait Christ ou qu'on diminuait Jésus-Christ de la vie même de l'Église. Et quand j'ai compris ça, ça fait plusieurs années que le Seigneur a travaillé mon cœur avec ça, vous savez. Quand j'ai compris ça, j'ai pleuré de repentance. Mais j'ai pleuré de tristesse. Parce que la puissance de l'Évangile, en faisant ça, dès lors qu'on enlève Christ, on enlève toute la substance, on enlève toute la puissance. Et l'autre Évangile diminue l'œuvre de Christ. Il diminue sa position. Il diminue sa personne. Il diminue sa grâce. Maintenant, je voudrais qu'on lise ça ensemble. Ensemble, c'est la Bible. Colossiens 2, 9 à 15. Car, regardez lui, le nombre de fois où il apparaît. En lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses. Vous avez une définition ici de l'évangile. Hein ? Il faudrait presque qu'on la prenne par cœur, ça. Qu'on utilise un peu plus notre intelligence. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il est vivant, j'ai reçu sa vie. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça a été dit la semaine dernière, ça. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Ça, c'est l'œuvre de Jésus qui est venu dans le monde pour nous sauver. Et l'autre passage, Colossiens 1, 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Toi, tu ne peux rien créer. Lui, il peut. Il est avant toute chose. Il est au-dessus de tout. Et toute chose subsiste en lui. Si tu te tiens debout, si tu respires, c'est grâce à lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il est le roi de l'Église. Il est sur le trône. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Toute plénitude. Est-ce que vous comprenez ? Tu veux trouver la vie ? En Christ. Tu veux le bonheur ? En Christ. Tu veux la paix ? En Christ. Tu veux la victoire ? En Christ. Tu veux le pardon ? En Christ. Tu veux l'édification ? En Christ. Tout est en lui, par lui et pour lui. En Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout. Vous, moi, les gens de ce monde, il veut réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant par lui, par la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà l'évangile. N'y ajoutons rien d'autre. L'évangile nous présente Christ, ce Dieu fait homme, nous amenant la vie éternelle à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, remettez Christ à sa place dans votre vie, dans vos motivations, dans ce que vous faites. Cherchez-le, lui. Cherchez-le, cherchez son amour, cherchez sa grâce, cherchez sa justice. Vous voulez être justifié, c'est en lui que vous êtes justifié. Je sais, vous connaissez tout ce que je viens de vous dire, pour la plupart. Mais on le connaît. Ça sonne toujours creux. T'as remarqué ça ? Il faut que j'en plisse. Il faut que je fasse le plein. cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez-le de toute votre volonté, de toute votre passion, de tout votre amour, parce qu'il en est digne. Pas une religion, pas une philosophie, un système de pensée, pas une certaine forme de mysticisme. Christ en premier. Christ, Jésus-Christ en premier. On va prier. Je ne sais pas s'il y a un chant qui parle de la suprématie de Christ. Je ne suis pas spécialiste dans la louange. Non, c'est rien. On va juste jouer un peu de musique. Et puis on va placer notre cœur. Et on va aller le chercher, lui. On va aller l'honorer, lui. On va le bénir, lui. Et ne vous laissez pas ravir. Arrêtez votre course. N'arrêtez pas votre course. Relevez-vous. Marchez pour lui. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a dit, désormais tu vas faire le Shabbat. Ouais. Mais je dis, pourquoi tu me demandes ça, Seigneur ? Je me repose de temps en temps. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Au moins ce jour-là, tu prendras le temps avec moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de relations avec toi. Plus de révélations. Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation. Je prie pour que tu te révèles davantage dans nos vies, Seigneur. Je prie pour que tu nous amènes de plus en plus à une compréhension de toi. Mais pas une compréhension, il est comme s'il est comme ça. Mais que je puisse le recevoir dans mon cœur, cet esprit de sagesse et de révélation. Cet esprit de compréhension de qui tu es par le Saint-Esprit. Viens, Seigneur, et amène-nous sur ton chemin. Le chemin de Damas. Ouvre nos yeux. Ferme nos yeux sur ce que nous avons compris et qui n'était pas de toi. Ferme nos yeux sur toute notre conception erronée, sur notre mysticisme, sur nos pratiques liturgiques, religieuses, peu importe. Mais amène-nous dans une relation avec toi qui nous fera te connaître davantage. Je prie pour qu'on prenne le temps pour ça. Je prie pour que ça devienne notre priorité, Seigneur. Oui, je demande que cette priorité soit celle d'un corps tout entier, l'Église. Tu es à la première place. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Il n'y a pas d'autre chef que toi, Seigneur. Sois béni, Jésus.